Le mercredi 3 mai, la Licra Saint-Étienne Agglomération remettait le prix Violette Maurice 2023. C'est dans les salons de la préfecture de la Loire que des élèves du collège Jacques Prévert d'Andrézieux-Boutéon et du lycée Étienne Mimard étaient récompensés de leurs travaux autour d'André Trocmé, pasteur qui, avec sa femme Magda, ont organisé le sauvetage d'un très grand nombre de juifs de la barbarie nazie avec l'aide des habitants du plateau du Haut-Lignon. Lauréats du premier prix, les lycéens primés sont allés le lendemain au lieu de mémoire du Chambon-sur-Lignon. Radio Ondaine vous propose un reportage aujourd'hui avec tout d'abord Florence Boudoussier, présidente de la Licra Saint-Étienne Agglomération, qui nous présente le prix Violette Maurice.
Donc c'est un prix qui est ouvert donc aux collégiens et aux lycéens de la Loire Sud, ou plutôt. Et en fait, on les fait travailler chaque année sur une personnalité qui a défendu les valeurs de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et des valeurs de tolérance et de solidarité. Et l'année dernière, donc Joséphine Becker avait été choisie. Et cette année, c'est le pasteur André Trocmé du Chambon-sur-Lignon qui a encouragé tous ces paroissiens du Chambon à sauver, à venir en aide aux Juifs pendant la dernière guerre.
Alors justement, André Trocmé, comment on le célèbre? Comment on en parle à ces élèves-là?
Alors, on les a fait travailler, en fait, suivant les niveaux. Sur les 6e et 5e, on travaillait sur la notion de résistance au présent, parce que ce qu'on essaye, en fait, c'est d'ouvrir aussi à eux, en fait, leur action, ce que peuvent leur porter, en fait, des exemples comme André Trocmé. Et puis, les élèves de 3e et 4e, on les avait fait travailler sur notamment l'engagement d'André Trocmé en leur rappelant la phrase qu'il avait donnée il avait répondu au préfet de Haute-Loire en 42 qui lui demandait lui donner les noms des juifs au Chambon. Il avait répondu: nous ne connaissons pas de juifs, nous ne connaissons que des hommes. Et du coup, on demande en fait aux élèves de travailler sur cette notion d'engagement. Et les élèves de première, de seconde, première terminale, de lycée, avaient à travailler sur la notion de conscience d'obéir à sa conscience et qui n'est pas forcément de suivre ce qui est les injonctions et la loi.
Alors, c'est la préfecture et monsieur le préfet qui vous reçoit ici. Du coup, dans l'engagement que vous avez au sein de la LICRA et puis dans le message qui est fait passer à ces élèves qui ont travaillé, qu'est-ce que vous en tirez, que le fait d'être reçu ici?
Ah, ben c'est un grand honneur. L'année dernière, donc, on avait été déjà pour la première fois reçu, et cette année, c'est une nouvelle fois. Et en plus, ce qui nous fait très plaisir, c'est que le nouveau préfet, monsieur Alexandre Rochat, tenait absolument à être là lui-même. Donc il nous reçoit et en plus il nous fait l'honneur de sa présence. Donc et puis pour les élèves, c'est quelque chose d'assez particulier de pouvoir venir dans ce lieu de la République. C'est quand même un signe fort pour eux.
Durant toute son histoire, l'homme a appris à agir selon ses principes inculqués pendant son existence. Comment le pasteur André Trocmé, en obéissant à sa conscience, a choisi le camp des justes? La conscience est la faculté ou le fait de porter des jugements de valeur sur ses propres actes. Les justes du nom complet, les justes parmi les nations, est une distinction honorifique décernée depuis 1963 à des civils par l'État d'Israël pour la protection des juifs durant la Seconde Guerre mondiale. André Trocmé est un pasteur né le 7 avril 1901 à Saint-Quentin et décédé le 5 juin 1971 à Genève. Il a permis la protection de nombreux juifs contre le nazisme. En quoi l'utilisation de la conscience par André Trocmé lui a-t-il permis de combattre le nazisme durant la Seconde Guerre mondiale?
André Trocmé a souhaité obéir à sa conscience. Un état de choc a peut-être été un élément important dans sa prise de conscience. Cette action monstrueuse de déporter les Juifs allait à l'encontre de ses principes. Les principes d'une personne peuvent dans certains cas dépasser les lois, c'est ce qui fut le cas avec le pasteur André Trocmé. Lorsque sa conscience l'imposa, il fallut qu'il agisse et qu'il aille à l'encontre des lois. Cela est encore le cas de nos jours. Il y a par exemple une récente loi interdisant de venir en aide à des migrants italiens traversant les Alpes à la frontière pour se rendre en France. Aller à l'encontre de cette loi mènera à des sanctions, cependant de nombreuses personnes décident tout de même de les aider. L'effarement, l'état de choc provoqué par certaines décisions ou certaines lois peut mener à une prise de bonne conscience malgré les interdictions. Le pasteur André Trocmé accepta d'aider les Juifs, certainement pour montrer son mécontentement. En effet, chaque citoyen ne peut pas avoir de l'impact sur la prise de conscience du gouvernement et sur l'État. Cependant, cette action fut un acte de rébellion exprimant le désaccord du pasteur avec le régime autoritaire et nazi présent en France durant les années 1940. Ce mécontentement du peuple contre les décisions de l'État est encore d'actualité, en effet. En ce moment, des manifestations et des grèves sont menées partout en France pour lutter contre la réforme des retraites obligeant les Français à travailler jusqu'à l'âge de 64 ans. Cet acte est un droit, il est donc légal cependant. Il va à l'encontre de l'État et de ses décisions. La prise de conscience peut donc avoir deux conséquences. La première étant la désobéissance des lois pour porter soutien à autrui. La seconde étant le mécontentement, le désaccord avec les décisions prises par l'État, et cela grâce à l'utilisation du droit de grève et de manifestation.
André Trocmé a choisi le camp des justes en obéissant à sa conscience. En effet, les justes sont les personnes ayant permis la protection des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, et cela malgré l'interdiction des lois. La conscience est une faculté à deux visages, le bien, le mal. La bonne conscience étant tout raisonnement, puis action, permettant d'aider sa propre personne ou autrui. En franchissant l'interdiction créée par les lois, André Trocmé a utilisé le bien, sa bonne conscience, pour aider les Juifs. Il permit leur protection grâce à sa direction dans le mouvement non-violent, Mouvement international de la réconciliation, MIR, mais aussi grâce à la création du collège Cévenol qui a servi de refuge pour de nombreux Juifs. C'est donc grâce à toutes ses actions et à son agissement de bonne conscience qui a permis à André Trocmé de choisir le camp des justes malgré l'interdiction. Nous pouvons donc nous demander en quoi une conscience individuelle peut-elle influencer sur une conscience collective.
Vous venez d'entendre Mathéo et Djibril lisant leurs travaux. Comme ses élèves de seconde du lycée Étienne Mimard, Clara, elle, en première au lycée Honoré d'Urfé de Saint-Étienne, a réalisé une œuvre autour d'André Trocmé.
Alors, c'est une bande dessinée sur André Trocmé, donc un homme qui a sauvé plusieurs Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai illustré donc André Trocmé, donc qui recueille plusieurs Juifs, qui leur fait visiter le village et qui combat en quelque sorte verbalement l'armée allemande. Alors en tout, il me semble que ça fait donc 6 pages. Donc ce qui était assez difficile parce que j'avais pas beaucoup de temps. Donc c'était essayer de recouper une histoire qui sera assez parlante en peu de pages. Nombre de vignettes, je pourrais pas vous dire, mais je pense qu'il y en a quand même beaucoup.
Alors comment on dessine André Trocmé? Est-ce qu'on regarde des photos? Est-ce qu'on caricature? Est-ce qu'on met une patte aussi particulière?
Alors personnellement, j'ai regardé beaucoup de photos d'André Trocmé pour commencer à voir les traits particuliers qu'il a. Et ensuite, j'ai décidé de faire un style qui est entre le réalisme et un peu plus simplifié, on va dire. Et donc, j'ai essayé de faire un André qui sera reconnaissable, mais quand même pas trop difficile à dessiner.
Alors, le sujet, c'est aussi la solidarité qui est important et l'entraide, l'aide à autrui. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ces notions-là de solidarité?
C'est des notions bien évidemment très importantes et c'est ce qui m'a touchée quand on m'a parlé d'André Trocmé et ce qui m'a encouragée à faire cette BD parce que ça a quand même pris beaucoup de temps et j'ai été très motivée en fait par les notions que je voulais véhiculer dans cette BD qui sont très importantes et qui nous touchent en quelque sorte à toutes les époques.
Bonjour, nous sommes la classe de 5e 2 du collège Jacques Prévert. Nous participons au concours organisé par la LICRA avec notre enseignante Madame Pérez. Nous avons aussi étudié André Trocmé et il faut savoir aussi que nous aussi, à notre jeune âge, nous avons lutté contre le racisme et les discriminations à notre façon.
Je m'appelle Loïc et mon arrière-grand-père a résisté à la Seconde Guerre mondiale. Donc je lutte contre l'antisémitisme et les discriminations dans ma classe en ne laissant personne de côté.
Je m'appelle Elif, mes grands-parents et mes parents ont résisté à la vie difficile en Turquie. Ils ont migré en France pour pouvoir s'en sortir avec leurs 5 enfants. Aujourd'hui, je veux prouver que je peux avoir une vie meilleure dans un pays qui est aujourd'hui le mien.
Je m'appelle Hüseyin et j'ai été insulté de sale turc, va faire des kebabs. Et comme André Trocmé, je voudrais aider les gens qui se font harceler à cause de leur culture ou leur religion.
Je m'appelle Mélissa et je suis heureuse qu'on me soit venue en aide à ma mère et à moi alors qu'elle était toute seule. Comme André Trocmé, je voudrais aider les familles seules.
Je m'appelle Véliane et j'ai aidé un ami qui se faisait harceler en le soutenant face à ses agresseurs. Et je lutte à l'école pour ne plus qu'il y ait de harcèlement.
Je m'appelle Bélinaï et comme André Trocmé, j'ai aidé des enfants dans le besoin en faisant deux voyages humanitaires pour construire des terrains de sport multiples.
Je m'appelle Ronzo et j'ai protégé mon petit frère à l'école qui se faisait harceler par un grand de ses mains. Je n'aime pas qu'on s'attaque aux plus faibles.
Nous nous appelons Cassandre, Théa et Sana, et si une nouvelle guerre éclate en France, on voudrait faire comme André Trocmé, aider des gens dans le besoin en leur distribuant des produits de première nécessité.
On s'appelle Pedro et André, on est arrivés en France la même année. On n'a pas bien réussi à se sociabiliser avec les autres parce qu'on ne parlait pas français. On se moquait de nos origines portugaises. Va construire des maisons. Nous aidons aujourd'hui des jeunes élèves portugais à s'intégrer à l'école.
On s'appelle Ambrine et Majin. Nos arrière-grands-pères ont fait la guerre d'Algérie. Nous luttons pour que tous les pays ont leur indépendance.
Je m'appelle Kenan et j'ai entendu mes camarades se faire traiter de noirs, de pauvres, et je n'accepterai jamais cela et je les défendrai toujours.
Je m'appelle Camille et on s'est beaucoup moqué de moi à cause de ma dyslexie et de mes aménagements à l'école. J'essaie d'aider les gens en difficulté et j'essaie de les défendre.
On s'appelle Caïs et Léo. Nous avons résisté à plusieurs choses comme insultes nous traitant d'arabes ou voleurs ou portugais. Et comme André Trocmé, nous ne voulons pas qu'on traite différemment les gens qui ont des cultures différentes ou des religions différentes.
Nous nous appelons Clara et Alexia et nous trouvons que André Trocmé a été courageux aujourd'hui. On trouve que la société est plus égoïste. Il faudrait être plus solidaire entre nous et plus humain.
Au collège Jacques Prévert d'Andrézieux-Boutéon, des élèves de 5e ont réalisé des enregistrements audio sur le thème de l'engagement et de la lutte contre les discriminations. Bélinaï et Baptiste, 12 ans tous les deux, nous parlent de la première approche en cours autour d'André Trocmé.
Il a été présenté en tant que personne emblématique pour faire ce concours de la LICRA et ça nous a tout de suite plu pour faire ce concours.
D'accord. Alors qui c'est André Trocmé avec vos propres mots?
André Trocmé, c'est un résistant qui a protégé des 3000 juifs à peu près et au Chambon-sur-Lignon et voilà.
Alors votre travail autour d'André Trocmé, qu'est-ce qui a été présenté aujourd'hui?
On a présenté notre résistance à nous, qu'est-ce qu'on a résisté comme André Trocmé en enregistrant notre voix. C'est contre le racisme et l'antisémitisme, de comment on a résisté sur ces sujets-là.
D'accord. Alors comment tu résistes à ta manière? Qu'est-ce que tu as retranscrit dans ces enregistrements?
Moi par exemple je fais des collectes alimentaires justement pour aider les gens dans le besoin qui ont besoin, par exemple les Ukrainiens ou même des SDF qui ont besoin de nourriture ou de produits de première nécessité.
D'accord. Et toi?
Moi en faisant des voyages humanitaires, que j'en ai déjà fait quelques-uns, pour aider des enfants dans le besoin en leur donnant les premières nécessités.
Alors, en étant porte-parole un peu de tous vos camarades, quels sont les sujets qui sont traités dans ces manières de résister, dans ces enregistrements-là? Vous parlez d'humanitaire, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Le racisme, l'antisémitisme et les sujets sur ce sujet, des sujets comme ça.
D'accord. Alors ça, comment vous en avez discuté en classe? Est-ce que vous avez fait des tables rondes? Est-ce que chacun apportait aussi son idée? Est-ce que vous avez échangé, discuté?
Et d'abord chacun proposait une idée, puis on faisait des groupes de personnes dont les idées se ressemblaient. Et après il y avait un porte-parole afin de dire dans le texte notre combat, notre lutte, notre résistance.
Vous êtes ici ce soir, nous sommes le mercredi 3 mai dans la salle des fêtes de la préfecture de la Loire. Qu'est-ce que ça vous procure comme sensation d'être ici dans ce lieu-là avec ce plafond immense et cette salle magnifique?
Ça veut dire que notre travail il a été apprécié, ça veut dire qu'on a bien travaillé, que notre travail a été apprécié et que voilà.
Est-ce que vous en avez parlé à vos parents de ce prix-là et des travaux que vous avez réalisés?
Oui, on en a parlé et ils étaient fiers de nous, ils étaient contents pour nous.
Oui, moi c'est exactement pareil, j'étais vraiment fière, voilà.
Salomé Pérez est professeure d'histoire-géographie au collège Jacques Prévert d'Andrézieux-Boutéon. Elle a accompagné ses élèves dans ce prix Violette Maurice de la LICRA Saint-Étienne Agglomération. Elle nous explique la forme pédagogique de cette expérience.
Alors c'est pas toujours facile parce que, disons que la Seconde Guerre mondiale c'est pas étudié au programme en 5e, c'est plus en 3e. Mais on part de l'EMC, l'enseignement moral et civique, et on travaille un petit peu sur la notion de discrimination, d'engagement aussi. Ici en l'occurrence, le sujet c'était résister. Donc résister au présent, qu'est-ce que ça inclut, qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce que nous on résiste au quotidien. C'était parler d'André Trocmé, faire une biographie peut-être sur le numérique, c'est ce qu'on avait fait avec les élèves. Et puis ensuite partir de là pour dégager l'engagement de chaque élève. Voilà. Alors au départ c'est un travail personnel. La biographie d'André Trocmé, chacun dans la salle informatique a travaillé dessus. Et puis ensuite on a corrigé en commun et on a décidé d'avoir des thématiques. Donc chaque élève a choisi sa thématique sur la notion de résister. Est-ce que je résiste face au harcèlement, je résiste face aux discriminations, face à mes origines, à ma famille, etc. Et là, en fonction des thématiques qu'il y avait, j'ai regroupé des élèves qui travaillent sur la même thématique pour faire une production commune. Voilà.
Alors ce travail de production commune, comment on procède quand on fait ces groupes-là, quel regard on porte sur le travail? Est-ce qu'on demande à chacun de présenter un peu son histoire et de sa propre définition et son propre engagement? Et comment ça se met ensuite en mots et en enregistrement?
Alors c'est pas une obligation, je force aucun élève à avoir forcément un regard sur sa vie familiale, sur son histoire familiale, sur son histoire personnelle. Ils disent vraiment ce qu'ils ont envie de dire à ce moment-là. Et puis oui, le fait d'entendre peut-être certains élèves participer plus que d'autres, ça donne envie à d'autres élèves de s'ouvrir, de poser des questions aussi, d'ouvrir le débat en famille, de se dire qu'est-ce que mes grands-parents ont fait, est-ce qu'ils ont participé ou non, et autrement, est-ce que moi j'ai participé à quelque chose aussi de lutte contre les discriminations à l'heure actuelle. Et puis l'enregistrement, alors c'est fait tout naturellement, j'ai demandé le calme dans la classe et j'ai enregistré chaque élève. Ils ont joué le jeu, on a fait une prise parce que, ou deux peut-être pour une classe, mais je trouvais que c'était aussi original de montrer les défauts de chaque élève. Vraiment le fait qu'il soit spontané, c'était important pour moi lors de l'enregistrement. Voilà.
Nous sommes la classe de 5e 7 du collège Jacques Prévert et en retraçant le parcours d'André Trocmé, nous nous sommes rendus compte que nous résistions tous à notre manière.
Je m'appelle Colline et avec ma famille, nous continuons le combat d'André Trocmé contre l'injustice en proposant un emploi aux Ukrainiens arrivés sur le sol français et qui ont donc besoin d'argent pour survivre à cette guerre.
Nous nous appelons Léa et Maëlle et nous sommes nous aussi des résistantes car à une époque de notre vie, nous nous sommes fait harceler.
Je m'appelle Léonie et je perpétue le combat d'André Trocmé en diffusant le témoignage de mes arrière-arrière-grands-parents qui ont caché des personnes juives pendant la guerre.
Je m'appelle Lina et je continue le parcours d'André Trocmé en défendant une fille qui a été victime de racisme.
Je m'appelle Baptiste et je fais des collectes alimentaires afin d'aider les gens dans le besoin comme le faisait André Trocmé.
Je m'appelle Louise et avec ma famille, j'essaye de suivre le chemin d'André Trocmé en envoyant des vêtements à des associations pour les personnes en difficulté.
Je m'appelle Neila et si des réfugiés venaient dans ma ville, je les accueillerais comme André Trocmé a accueilli les Juifs.
Nous nous appelons Florian, Gatien et Victor et comme André Trocmé, nos ascendants sont des résistants de la Seconde Guerre mondiale qui se sont battus contre les nazis pour sauver des Juifs. Nous sommes fiers de ce qu'ils ont accompli et nous aimerions faire de même et combattre les discriminations.
Nous nous appelons Leila et Luna et nous tenons à perpétuer le combat de nos grands-parents pendant la guerre d'Algérie qui ont lutté pour être libres.
Je m'appelle Nour et comme André Trocmé, je lutte contre les discriminations en aidant une camarade qui se faisait harceler. Je l'ai aidée à sortir du silence en dénonçant son harceleur.
Nous nous appelons Sohan, Calista et Joris et comme André Trocmé, nous sommes des résistants car tous les trois nous avons aidé des personnes discriminées par leur handicap.
Nous nous appelons Élisée et Apolline et nos grands-parents et arrière-grands-parents ont vécu la Deuxième Guerre mondiale en luttant pour la liberté de tous, combat que nous souhaitons continuer.
Je m'appelle Camille et pour moi, le combat d'André Trocmé va dans les deux sens. Un Allemand n'est pas un nazi. Ma grand-mère a aidé un soldat allemand qui avait besoin d'aide et je lutte aujourd'hui contre cet amalgame.
Je m'appelle Adèle et je suis fière de mon arrière-grand-mère qui a résisté comme André Trocmé pendant la Seconde Guerre mondiale en alimentant des résistants.
Nous nous appelons Kali et Evan et pour nous, André Trocmé est un héros. Car sans lui, il n'y aurait aujourd'hui plus du tout de juifs. C'est maintenant une richesse d'avoir plusieurs religions dans notre monde.
Je m'appelle Leïla et je remercie aujourd'hui André Trocmé de pouvoir nous faire vivre tous ensemble malgré nos différences.
Alexandre Rochat, préfet de la Loire, a tenu à être présent lors de cette cérémonie en préfecture de remise du prix Violette Maurice. Il nous explique son point de vue.
En fait, ça représente un engagement pédagogique qui est fait par les enseignants et les élèves de ces classes pour répondre à un cahier des charges. En fait, ils ont répondu à un cahier des charges qui leur permet de travailler sur ce qu'est aujourd'hui, ce que pourrait représenter aujourd'hui l'engagement qui a été fait par le pasteur Trocmé ou par Madame Violette Maurice dans l'engagement qu'ils ont eu à l'occasion de la Deuxième Guerre mondiale et de retranscrire aujourd'hui en cultivant un certain nombre de messages qui doivent être ceux qui sont aujourd'hui, ceux de la tolérance, ceux du respect des autres et ceux de l'absence de violence dans les relations et dans les contacts entre les uns et les autres.
Alors en plus d'avoir réfléchi durant quelques mois autour de cette notion d'engagement, cette notion de résistance, c'est ici la venue dans un lieu qui représente l'État français, cette salle des fêtes avec des parents aussi, accompagnateurs présents, ça c'est un ensemble de personnes qui viennent ici, pas très souvent finalement à la préfecture. Comment on les invite à la préfecture ?
Et bien c'est pour ça que moi je suis très content d'ouvrir la préfecture, qui d'ailleurs que nous partageons avec le conseil départemental, comme vous le savez, puisque c'est la maison de la République ici. Et la maison de la République, elle est là pour tout le monde, elle est là pour accueillir ce genre de cérémonie, elle est là pour accueillir d'autres cérémonies que les gens me demandent d'organiser. Moi j'accueille bien volontiers, parce que comme vous avez raison, on n'a pas l'occasion de venir tous les jours dans cette maison de la République, alors que c'est la maison de tous, et c'est ici qu'on doit partager ces valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité qui sont nos mots d'ordre et qui sont ceux qui sont inscrits d'ailleurs sur le devant de la préfecture comme sur le devant des mairies qui sont aussi d'autres maisons de la République.
Lauréat du prix Violette Maurice de la LICRA Saint-Étienne Agglomération, des élèves de seconde du lycée Étienne Mimard de Saint-Étienne visitaient le 4 mai le lieu de mémoire au Chambon-sur-Lignon. Floriane Barbier, responsable du lieu de mémoire, nous le présente.
Alors c'est un centre d'interprétation qui est dédié à l'histoire locale du plateau autour du Chambon-sur-Lignon pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque durant cette période, les habitants se sont engagés en résistance, et notamment ce qui a marqué les esprits dans l'accueil de réfugiés, notamment de réfugiés juifs. Le lieu de mémoire est réparti en deux espaces, en grande partie. Un espace historique, un espace de parcours permanent où on découvre l'histoire locale à travers des panneaux, des vidéos, des documents d'archives qui permettent vraiment de comprendre cette histoire d'accueil et de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis au rez-de-chaussée, une salle de témoignages vidéo qui permet en fait de compléter cet aspect très historique par des témoignages de personnes qui ont connu cette histoire. Des réfugiés, des sauveteurs, des résistants. Et ça permet vraiment d'avoir un complément plus mémoriel, la mémoire de ces gens-là, en plus de l'aspect historique qu'on trouve à l'étage.
Alors, comment vit le lieu ? Quel est son quotidien de ce lieu de mémoire ?
Alors le quotidien, il est très différent selon les saisons. Par exemple, en ce moment, notre quotidien, c'est l'accueil de scolaires avec des élèves qui viennent chaque jour visiter ce lieu et qui suivent des activités spécifiques qui sont adaptées à leur niveau. Sur la saison estivale, le quotidien, il est plutôt rythmé par l'accueil du visiteur, je dirais, du grand public, avec aussi une programmation culturelle beaucoup plus intense sur la période estivale qui est marquée notamment par nos expositions temporaires. Cette année, on va présenter une exposition autour de dessins de Cabu, qui a réalisé des dessins autour de la rafle du Veldiv. Voilà, donc le quotidien, il est toujours rythmé autour de nos missions de transmission et de valorisation de cette histoire.
Alors avant d'aborder l'aspect pédagogique aujourd'hui avec la visite de ces lycéens de Saint-Étienne, du lycée Étienne Mimard, au niveau des expositions, comment sont-elles choisies ? Quelles sont les thématiques que vous abordez dans ces expositions-là ?
Alors les thématiques, elles sont liées évidemment à la Seconde Guerre mondiale, à la Shoah et puis aussi au sauvetage. On essaye chaque année en fait d'alterner aussi ces thématiques avec parfois des thématiques plus liées à l'histoire locale où on va approfondir des sujets liés à l'histoire du plateau autour du Chambon-sur-Lignon et puis parfois des thématiques plus générales autour de l'accueil pendant la Seconde Guerre mondiale ou de la Shoah par exemple et souvent en tout cas un aspect artistique, voilà.
Alors sur la visite notamment du grand public, comment se fait-elle cette visite-là? Est-ce que ce sont des visites libres? Est-ce que ce sont des visites guidées?
Alors pour la majeure partie du grand public, ce sont des visites libres. Le mémoire est tout à fait adapté en fait à une visite libre. Et puis on a, selon les demandes, des visites guidées, donc soit pour des groupes qui nous le font la demande en amont, et puis également sur la période estivale pendant les vacances, des visites guidées du lieu de mémoire ou des expositions temporaires qui sont proposées à horaire fixe pour le grand public.
Si l'on parle de l'aspect pédagogique, l'accompagnement des élèves comme aujourd'hui, comment se fait-il ?
Alors, il se fait déjà en amont. On a un service éducatif au lieu de mémoire qui est constitué de l'équipe de médiation et d'une enseignante en fait qui est mise à disposition par Éducation nationale. C'est ce qu'on appelle un professeur relais. Et en lien avec ce professeur relais, on conçoit des activités qui sont vraiment adaptées aux différents niveaux des élèves, avec pour objectif que ces activités permettent la découverte de l'histoire locale, mais aussi, de traiter de programmes qu'ont chacune de ces classes-là. Donc en amont, on conçoit ces activités, des visites mais aussi des ateliers pédagogiques. Et puis ensuite, il y a une grande phase sur place quand les élèves viennent, où là, c'est vraiment un travail de médiation directe, où nos médiateurs vont accompagner les élèves dans leur découverte. Et c'est des découvertes qu'on veut actives, en tout cas les plus actives possibles. Et les élèves sont vraiment mis en activité et en situation de réflexion. Alors aujourd'hui, par exemple, les élèves suivent ce que l'on appelle une visite participative du lieu de mémoire. Donc c'est eux qui sont mis en position de guide. Ils étudient, accompagnés par le médiateur, les espaces du musée en petits groupes. Et ensuite, tous les petits groupes se réunissent et chaque groupe qui a étudié la salle, en fait, va la présenter aux autres. Ce qui permet vraiment aux élèves d'être acteurs de leur découverte. Et je crois aussi ce qui leur permet de mieux s'approprier l'histoire et de la retenir en repartant.
Alors, c'est un séjour organisé par le plateau, d'un mois dans la ferme, dans les fermes du plateau. Ils accueillent les enfants d'ouvriers de Saint-Étienne, des adolescents. Et en fait, ils font comme une colonie de vacances. À la même période, quelle nouvelle activité économique se développe sur le plateau? Que met-on en place pour y répondre? Alors, on a le développement du tourisme qui conduit à la construction d'hôtels.
Les premiers réfugiés qui sont arrivés sur le plateau, etc., ce sont les réfugiés espagnols dus à la guerre civile qu'il y avait à l'époque, dans les années 1936. Et ensuite, que nomme-t-on l'exode qui fuit et pourquoi? Donc, on peut voir ici. En fait, c'était l'Allemagne a du coup réussi à conquérir la moitié de la France. Suite à l'armistice, il y a eu la moitié de la France qui était sous l'emprise allemande et l'autre moitié qui était encore libre. Et donc il y a surtout les personnes du nord de la France qui étaient occupées par l'Allemagne qui ont eu l'exode et qui se sont réfugiés dans le sud pour éviter l'Allemagne nazie.
Alors précisément, l'exode, c'est quand c'est avant que la France soit coupée en deux, ouais. C'est quand les Allemands sont arrivés et qu'ils ont bombardé les grandes villes. Et donc ils ont fui les grandes villes, et après, oui, il va y avoir d'autres réfugiés qui fuient la zone occupée. Mais d'abord, pour l'exode, c'est vraiment ceux qui fuient les bombardements et la guerre.
Et puis ensuite, comme les autres réfugiés qui sont arrivés, il y a eu les Juifs, principalement à cause de la persécution qui s'ensuit.
Et puis la mise en activité, elle est aussi en salle, sur les activités pédagogiques. Et là, aujourd'hui, les élèves étudient des témoignages de personnes qui ont connu cette histoire, notamment des réfugiés. Et ces témoignages vont leur permettre d'intégrer toute la diversité des situations qui ont pu exister sur le territoire pendant la Seconde Guerre mondiale.
Alors comment on fait de ce lieu de mémoire qui parle d'une histoire passée, comment on fait le lien avec le présent, solidarité, accueil, entraide, et c'est aussi ce qui rythme l'actualité depuis quelques années, est-ce qu'on fait un lien avec le présent?
Alors je dirais que ce lien, c'est pas à nous de le faire directement parce qu'on n'est pas une institution politique ou autre qui devrait prendre des positions. Par contre, notre travail, et ça j'en suis convaincue, il n'est pas de faire de l'histoire simplement pour de l'histoire, mais en tout cas pour donner aux élèves et donc aux jeunes générations des outils de réflexion du monde présent. Et ensuite à eux, à partir de ces outils de réflexion qu'on leur donne, eh bien peut-être de mener leur réflexion, probablement pas le jour même où ils viennent, mais au fur et à mesure de leur scolarité, aussi de leurs expériences personnelles, eh bien de tirer eux-mêmes les réflexions sur le monde qui les entoure, des réflexions civiques et puis aussi en tant que citoyens en devenir.
Alors, dans la visite prévue aujourd'hui, il y a également une marche autour du village du Chambon-sur-Lignon, à l'extérieur donc de ce mémorial. Ici, qu'est-ce qu'on va retrouver ?
Alors, l'idée de cette visite du village, c'est premièrement de rendre les choses un petit peu plus concrètes aussi. On parle beaucoup d'une histoire qui est immatérielle en grande partie. Donc, l'idée, c'est aussi de montrer aux élèves qu'il y a encore des choses qui se voient dans l'espace, donc que ce n'est pas une histoire si lointaine, de rattacher cette histoire à des lieux, évidemment, et puis la vivre sur place, finalement. Donc, c'est vraiment l'idée, et ça permet de compléter ce qu'ils auront vu le matin avec la visite et l'atelier pédagogique. Par exemple, on parle de personnages, de certains personnages qui ont vécu à cette époque. Ben, ça permet de voir les lieux où ils ont vécu et vraiment de rattacher et de compléter les activités qu'ils auront fait le matin.
Alors, comment vit ce lieu de mémoire financièrement ? Comment on fait en sorte que ça fonctionne, qu'il y ait des personnes qui puissent y travailler, qu'on puisse accueillir des expositions ?
Alors, depuis septembre 2020, le lieu de mémoire est géré par le Mémorial de la Shoah, qui est basé à Paris, qui est une fondation d'utilité publique. Et de ce fait, le lieu de mémoire peut aussi mener ses actions grâce au soutien d'un certain nombre de partenaires, publics, notamment l'État, la région, le département, qui nous soutiennent dans nos actions. Et puis, les partenaires aussi du Mémorial de la Shoah, comme la FMS, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui sont aussi des partenaires très importants pour notre travail. Alors, pour la visite du lieu de mémoire lui-même, le temps qu'on conseille, en général, c'est entre 1 et 2 heures de visite. Ça peut être aussi beaucoup plus selon l'intérêt des visiteurs. Après, sur la venue sur le territoire, moi, je trouve que c'est aussi une vraie expérience parce que c'est quand on vient sur place qu'on se rend compte aussi de ce territoire et qu'on comprend aussi cette histoire d'accueil. Et moi, il me semble que quand on vient passer la journée, à la fois au lieu de mémoire, mais aussi sur le territoire, il a plein d'atouts à offrir, ce territoire. Bah, c'est aussi une expérience cette journée passée ici.
Une expérience passée ici comme celle de Camille et Elio, élèves de seconde, qui nous livrent leurs premières impressions en arrivant au Chambon-sur-Lignon dans ce lieu de mémoire.
Comme impression, je dirais que c'était quand même assez calme comme ambiance. Mais c'était vraiment juste commémoratif, je pense, l'expliquer comme ça. Et voilà, donc c'était plutôt agréable.
Alors vous avez été partagé en plusieurs groupes pour participer à des ateliers. Alors quels ont été ces ateliers-là ?
On a travaillé d'abord sur des témoignages de certaines personnes. On a pu soit les écouter dans une salle spéciale ou lire les témoignages de certaines personnes. Et après, chaque groupe, donc dans notre groupe, il y avait encore des groupes, et chaque groupe a pu passer au tableau pour expliquer simplement les témoignages, voir ce qui nous avait marqué, etc.
Alors, c'était découpé en plusieurs catégories sur ce premier atelier. On pouvait parler des accueillants, des personnes qui accueillaient, des réfugiés, etc. Quel sujet vous avez traité et puis comment vous l'avez traité ?
Alors, nous, mon groupe, on a eu les réfugiés. Donc, c'était le deuxième groupe qui, du coup, avait des témoignages audio. Ce qui permettait donc d'entendre les réfugiés, comment ils l'avaient vécu, comment ils l'avaient ressenti. Donc je pense que c'était plus intéressant qu'avoir un document écrit. Et je dirais pas que c'était passionnant, mais c'était plutôt intéressant quand même d'avoir vraiment un avis humain plutôt que d'avoir juste une transcription par écrit.
Pour mon groupe, c'était sur les réfugiés aussi. Et j'ai pu aussi avoir la chance d'écouter les témoignages. Et j'ai fait aussi les accueillants. J'avais 2 accueillants et 2 réfugiés. Et les témoignages étaient super intéressants, ils étaient très touchants et très profonds. Bah, les accueillants, ils disaient beaucoup, à beaucoup de reprises, ils pouvaient dire que c'était fait naturellement, que c'était humain d'accueillir des personnes comme ça, ou même d'adopter pour certains. Donc voilà.
Le second atelier ensuite était en rapport à des salles d'exposition. Qu'est-ce que vous avez fait ici ?
Alors on a aussi été partagé en groupe et chaque groupe devait présenter une salle qui suivait au fil des années la Seconde Guerre mondiale et en particulier sur le coup le plateau du Chambon-Faucherolles, comment ça s'est passé, comment les Juifs ont été accueillis, aussi les migrants espagnols et autres. Du coup, bah, c'était vraiment plus général. Et voilà.
Alors, qu'est-ce que tu as eu à décrire ? Quelle salle ?
Alors, j'ai eu à décrire le début de la guerre, donc c'est-à-dire l'arrivée au pouvoir d'Hitler, mais aussi du régime de Vichy. Et donc, après ceci, même avant la guerre, j'ai eu... Donc, c'était avec les étrangers espagnols qui fuyaient leur pays qui devenait dictatorial. Et ensuite, la fin de mon explication, moi, s'arrêtait avec une famille à Saint-Étienne qui, du coup, fabriquait de faux papiers pour permettre aux Juifs d'aller en Suisse et d'être protégés vu que c'était un pays neutre.
Moi, j'ai travaillé sur la zone 1 et on a travaillé sur la mise en place du protestantisme, sur comment étaient réparties les zones aussi d'accueil pour les réfugiés. Donc on a remarqué que c'était des zones qui étaient très espacées, même si dans les trois bourgs, ça s'appelle, il y en avait beaucoup plus. Et on a pu aussi voir que c'était une zone qui était importante parce que bah, y avait le chemin de fer, donc ça pouvait leur permettre d'amener des personnes. Ils avaient aussi dans cette zone développé des moyens pour se nourrir, comme en agriculture, etc.
Alors, qu'est-ce que ça fait finalement d'être acteur d'une visite? Parce qu'on vous a demandé, là, dans un esprit pédagogique particulier, de faire la visite à vos camarades.
Bah, ça montre un peu l'envers du décor, parce que bah, c'est pas si facile que ça. Et c'est assez intéressant de voir le métier de certaines personnes comme guide des musées, ou etc.
Au-delà du fait d'avoir été guide d'un jour, qu'est-ce que vous retenez de ce lieu de mémoire ?
On retient surtout qu'il y a eu une vraie histoire. C'était pas juste un moment de passage où des gens étaient accueillis pour être protégés. Non, il y avait vraiment des histoires où des gens ont fini connus parce qu'ils ont fait des actions. Donc non, c'était intéressant. Il n'y a pas plus à dire. C'était vraiment juste on apprenait des choses qui nous avaient été apprises, mais scolairement et non... mémorialement, je dirais.
Et on retient que les témoignages ont été très touchants. On a pu voir que certaines personnes, avoir la vie d'autres personnes, c'est très touchant. Et puis même, c'était une super bonne expérience.